10 minutes chronique. Jean-Philippe Toussaint, introduction. Il y a bien des années, découvrir Jean-Philippe Toussaint, la désinvolture légère et décalée qui s'exprimait dans son premier roman, était un plaisir délicieux. On aurait bien accueilli le narrateur comme un ami fantasque, peu fiable sans doute, mais bien élevé. C'était passé à côté de quelque chose de plus profond, tant l'humour parfois recouvre la mélancolie, un certain mal de vivre. Ce livre, c'était la salle de bain. Lorsque j'ai commencé à passer mes après-midi dans la salle de bain, je ne comptais pas m'y installer. Non, je coulais là des heures agréables, méditant dans la baignoire, parfois habillé, tantôt nu. Edmondson, qui se plaisait à mon chevet, me trouvait plus serein. Il m'arrivait de plaisanter, nous rions. Je parlais avec de grands gestes, estimant que les baignoires les plus pratiques étaient celles à bord parallèle, avec dossier incliné et un fond droit, qui dispensent l'usager de l'emploi du butoir calepier. Edmondson pensait qu'il y avait quelque chose de desséchant dans mon refus de quitter la salle de bain, mais cela ne l'empêchait pas de me faciliter la vie, subvenant aux besoins du foyer, en travaillant à mi-temps dans une galerie d'art. Autour de moi se trouvaient des placards, des porte-serviettes, un bidet. Le lavabo était blanc. Une tablette le surplombait, sur laquelle reposaient brosse à dents et rasoir. Le mur qui me faisait face, parsemé de grumeaux, présentait des craquelures. Des cratères, çà et là, trouaient la peinture terne. Une fissure semblait gagner du terrain. Pendant des heures, je guettais ses extrémités, essayant vainement de surprendre un progrès. Parfois, je tentais d'autres expériences. Je surveillais la surface de mon visage dans un miroir de poche, et parallèlement, les déplacements de l'aiguille de ma montre. Mais mon visage ne laissait rien paraître. Jamais. Un matin, j'ai arraché la corde à linge, j'ai vidé tous les placards, débarrassé les étagères. Ayant entassé les produits de toilette dans un grand sac poubelle, j'ai commencé à déménager une partie de ma bibliothèque. Lorsqu'Edmondson en rentra, je l'accueillis un livre à la main, allongé, les pieds croisés sur le robinet. Edmondson a fini par avertir mes parents. Maman m'apporta des gâteaux. Assise sur le bidet, le carton grand ouvert posé entre ses jambes, elle disposait les pâtisseries dans une assiette à soupe. Je la trouvais soucieuse depuis son arrivée. Elle évitait mes regards. Elle releva la tête avec une lasse tristesse, voulut dire quelque chose mais se tut, choisissant un éclair dans lequel elle croqua. « Tu devrais te distraire, me dit-elle, faire du sport, je ne sais pas, moi. » Elle s'essuya le coin des lèvres avec son gant. Je répondis que le besoin de divertissement me paraissait suspect. Lorsqu'en souriant presque, j'ajoutais que je ne craignais rien moins que les diversions. Elle vit bien que l'on ne pouvait pas discuter avec moi, et machinalement me tendit un millefeuille.
J'étais sur le point de m'endormir. Lorsqu'Edmondson entra dans la salle de bain, pivota et me tendit deux lettres. L'une d'elles provenait de l'ambassade d'Autriche. Je l'ouvris avec un peigne. Edmondson, qui lisait derrière mon épaule, souligna mon nom sur le carton d'invitation. Ne connaissant ni autrichien ni diplomate, je dis qu'il s'agissait d'une erreur probablement. Assis sur le rebord de la baignoire, j'expliquai à Edmondson qu'il n'était peut-être pas très sain à 27 ans, bientôt 29, de vivre plus ou moins reclus dans une baignoire. Je devais prendre un risque, disais-je les yeux baissés en caressant les mailles de la baignoire, le risque de compromettre la quiétude de ma vie abstraite pour... Je ne terminais pas ma phrase. Le lendemain, je sortis de la salle de bain. Sortir de la salle de bain, c'est le risque de devoir répondre aux sollicitations du monde extérieur. Dans un premier temps, rester à l'abri dans l'appartement est une solution, même si deux artistes fauchés, censés repeindre la cuisine, y sont introduits par Edmondson, la compagne du narrateur. Ce dernier n'est pas vraiment touché par ces perturbations, il semble s'en accommoder. Spectateur distrait de sa vie, sa pensée prise entre deux feux, la rêverie et la réalité, à laquelle il prête une attention intermittente, présent et ailleurs. Dans cette sorte d'absence où l'humour le dispute à la mélancolie, on peut distinguer une indifférence plutôt qu'une lassitude.
Et après ? Dit le narrateur, alors qu'il vient d'imaginer la réception de l'ambassade d'Autriche à laquelle il a été invité.
Il a mis en scène dans le détail sa visite à l'ambassade, bien qu'il n'ait pas du tout l'intention de s'y rendre.
Et après ? Quelle importance tout ça ?
L'imaginaire est sans fin. On le suspend, on le reprend, on l'abandonne.
Et surtout pour notre narrateur, aucune réflexion sérieuse ou constructive ne doit s'y infiltrer.
Quand il s'y laisse aller, il trouve le moyen très vite de la rendre dérisoire.
Il y a deux manières de regarder tomber la pluie. Chez soi, derrière une vitre. La première est de maintenir son regard fixé sur un point quelconque de l'espace et de voir la succession de pluies à l'endroit choisi. Cette manière reposante pour l'esprit ne donne aucune idée de la finalité du mouvement. La deuxième, qui exige de la vue davantage de souplesse, consiste à suivre des yeux la chute d'une seule goutte à la fois, depuis son intrusion dans le champ de vision, jusqu'à la dispersion de son eau sur le sol. Ainsi est-il possible de se représenter que le mouvement, aussi fulgurant soit-il, en apparence, tend essentiellement vers l'immobilité, et qu'en conséquence, aussi lent peut-il parfois sembler, entraîne continuellement les corps vers la mort, qui est immobilité.
Olé !
Oui, vous avez bien entendu. Olé !
Il fallait bien mettre un frein à cette débauche de méditation.
Suivre des yeux une unique goutte de pluie ne tire pas à conséquence, mais énoncer des idées, philosopher, entraîne trop loin.
Cultiver le vide est moins risqué. Laisser flotter sa conscience des choses qui gravitent autour de soi, là est le confort.
Le narrateur se distrait de la vie en inventant ce qui tend le plus vers le rien.
En portant un regard détaché sur les événements, en les tenant pour négligeables.
Dans la première partie du roman intitulé « Paris », en 40 chapitres, constitués de 2 à 3 pages, parfois d'une seule phrase, Jean-Philippe Toussaint décrit une sorte de comédie saugrenue, dont le décor est en grande partie la cuisine, où les deux artistes polonais engagés comme peintres en bâtiment ont apporté en cadeau des poulpes qu'ils tentent de découper.
Le narrateur, spectateur distrait, tout à son univers est leur témoin, sans être vraiment présent.
Cette première partie s'interrompt sur 3 points de suspension. Inachevé, abandonné, ce qui évite toute idée d'une fin, de l'immobilité, de la mort. C'est ainsi que la pensée amorcée du narrateur revient dans l'écriture même du roman.
La deuxième partie s'intitule « L'hypoténuse » en 80 chapitres. Je partis brusquement et sans prévenir personne. Je n'avais rien emporté. J'étais vêtu d'un costume sombre et d'un pardessus bleu. Je marchais dans la rue, les arbres, le trottoir, quelques passants. En débouchant sur la place, j'aperçus l'autobus. J'accélérai le pas, traversai l'avenue en courant et montai à la suite des autres voyageurs. L'autobus se mit en route. Je m'assis au fond, dans le boudoir circulaire. Les vitres étaient couvertes de pluie. Je descendis au terminus et me dirigeai vers la gare. J'errai quelque peu dans le hall, je pris un billet. Essayai d'obtenir une couchette, mais il était trop tard. Le train était sur le point de partir. Le lendemain, le train arriva. Je descendis sur le quai, traînai dans la gare, les mains dans les poches de mon élégant manteau.
Le narrateur arrivait en Italie, à Venise, organise sa vie. Une vie de train-train qui lui convient, une vie dans sa chambre d'hôtel protégée par les rites que constituent les repas et les passages au bar à regarder la télévision. Lorsque je sortais de l'hôtel, je m'éloignais rarement. Je restais dans les rues avoisinantes. Une fois cependant, il me fallut retourner au grand magasin Standa. J'avais besoin de chemises, mon caleçon neuf devenait sale. Le magasin était très lumineux, je marchais lentement dans les allées, ainsi qu'un inspecteur, caressant la tête d'un enfant de temps à autre. Je m'attardais devant les vêtements, choisissais des chemises, touchais la laine des pullovers. Au rayon des jouets, j'achetais un jeu de fléchettes. Cet achat de jeu de fléchettes aura des conséquences. Mais peut-être pas. Et après ?
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Well, lines say this love is best. Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you picking a hole.
Jean-Philippe Toussaint est né à Bruxelles en 1957. La salle de bain, son premier roman, paru en 1985, a été traduit en 25 langues.
You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sudden cools my temper. It never cools my temper.
Le 9 octobre, je vous retrouve pour ce cycle consacré à Jean-Philippe Toussaint sur Westrack Radio, dans Viva Culture. À bientôt.